France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la bataille pour la loi sur la parité. Dans les années 70, alors que l'élan féministe transforme peu à peu toutes les sphères de la société, le petit monde de la politique semble faire de la résistance. Et les femmes peinent à trouver une place dans cet univers indécrottablement macho. Alors, au début des années 90, un nouveau concept émerge, celui de la parité femmes-hommes. Le principe, il devrait y avoir autant de femmes que d'hommes dans les sphères du pouvoir. Cela peut paraître logique, évident, simple, et pourtant, alors que les appels à une loi contraignante prennent de plus en plus d'ampleur, le débat fait bientôt rage dans les médias. On argue qu'une telle mesure serait humiliante pour les femmes, et même un danger pour les principes fondateurs de notre modèle républicain. Après une rude bataille parlementaire, la loi sur la parité est finalement votée en 2000. Reste à savoir comment, en l'espace de 10 ans, une revendication inédite a réussi à s'imposer et à remporter cette victoire éclair. Notre invitée aujourd'hui, la sociologue Laure Bérény, directrice de recherche au CNRS. Elle a consacré une thèse et un livre à cette histoire, ouvrage intitulé « La bataille de la parité ». Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Marie Kirchen, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme à Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Nous sommes en mai 91. Après être passé par Les Échos, L'Express ou encore à l'hebdomadaire Elle, la journaliste Claude Servan-Schreiber se lance dans un travail universitaire. Son sujet, les femmes au sein du Parti Socialiste. Elle contacte Anne Le Gall, une militante qui a fait partie d'un éphémère courant G au sein du PS et qui a joué des coudes à la fin des années 70 pour faire plus de place aux femmes au sein du parti. Anne Le Gall accepte de venir déjeuner chez Claude Servan-Schreiber à la campagne près de Dreux. Ce sera aussi l'occasion pour la socialiste de recroiser Françoise Gaspard, elle aussi une ancienne du PS et la compagne de Claude Servan-Schreiber. Après le dessert, Anne Le Gall et Claude Servan-Schreiber s'installent dans le jardin pour l'interview. La journaliste enclenche son magnétophone, mais voilà que son interlocutrice tente bientôt de la dissuader de se pencher sur cette tentative de grand jet qui n'a eu que des résultats, disons, mitigés. Non, ce n'est pas très intéressant, c'est même une impasse. Les hommes politiques ne veulent rien entendre, et par copes. Alors Claude Servan-Schreiber proteste. Tout de même, il faut bien que les femmes accèdent à la direction des partis, à des postes d'élus. Anne Le Gall l'interrompt, oui, mais pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, la parité. À l'époque, le terme est surtout utilisé dans le domaine économique. On parle de parité monétaire ou encore de gestion paritaire pour les organismes de sécurité sociale, par exemple. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire ? Anne Le Gall doit se faire plus clair. La parité, c'est l'idée qu'il faut autant de femmes que d'hommes dans les lieux du pouvoir, tout simplement. L'idée d'une démocratie paritaire a été théorisée 2 ans plus tôt, en 89, lors d'un séminaire du Conseil de l'Europe. La question de la place des femmes dans les sphères dirigeantes est dans l'air du temps, au point que les institutions européennes s'en emparent. C'est qu'il apparaît de plus en plus clair que la situation stagne. Et les quelques maigres avancées entraînent aussitôt un retour de bâton et de vieux réflexes sexistes. En France, en ce mois de mai 91, une femme vient d'accéder pour la toute première fois au poste de Premier ministre, Édith Cresson. Mais à peine nommée, voilà que cette ancienne ministre, au CV pourtant bien rempli, est très dans un bout, accusée de devoir son ascension à ce qu'on appelle vulgairement une promotion canapé, en l'occurrence avec François Mitterrand. Écoutez d'ailleurs cette sortie du député français François Daubert devant les caméras de France 2.
Là, vraiment, on est dans un système incroyablement monarchique. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Edith Cresson. Il y a un parallélisme certain.
Classe. Au début des années 90, la politique reste une affaire d'hommes, on vient de le voir. Et si les femmes ont constitué près de 7% des députés en 1946, juste après la guerre, elles ne sont plus que 5,7% 50 ans plus tard. Un chiffre peu glorieux qui place la France en avant-dernière position à l'échelle européenne. Le Sénat fait encore moins bien avec 3% de sénatrices. Et les quelques femmes qui parviennent à intégrer ces boys clubs doivent endurer nombre de réflexes sexistes et de commentaires graveleux. Alors, comment faire pour changer la donne? Dans les années 70, on évoque l'outil des quotas. Sous la pression de ses militantes, en 74, l'EPS glisse dans ses statuts l'obligation d'avoir 10% de femmes à tous les degrés de l'organisation. Puis, 20% en 79. Aujourd'hui, ces objectifs peuvent nous sembler bien timides. Et pourtant, c'est encore pire sur le côté droit de l'échiquier politique, où l'on ne s'encombre même pas avec ce genre d'histoire. En 81, alors qu'elle vient d'être élue députée sous l'étiquette socialiste, l'avocate Gisèle Halimi milite pour des quotas qui s'imposeraient à tous les partis. Le groupe socialiste fait ainsi adopter un amendement pour les obliger à présenter 25% de femmes sur les listes des élections municipales. Bien, le vote de la loi passe sans encombre, mais la douche froide vient du Conseil constitutionnel, comme le rapportent les actualités de TF1 en novembre 82.
Le Conseil constitutionnel a annulé cette loi parce qu'il estime qu'elle est contraire au principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors les réactions sont nombreuses. Dans l'opposition, on estime que c'est maintenant au mouvement politique à jouer. La majorité n'est pas contente et le ministre des Droits de la Femme, Yvette Roudy, ne le cache pas. Écoutez-la.
Moi, je dis qu'il est pour le moins paradoxal qu'on puisse déclarer contraire à l'égalité un projet qui a justement pour objet de l'assurer. Je trouve que ce raisonnement juridique est quelque peu glacé et je considère qu'il laisse ainsi se perpétuer des discriminations sexistes existantes.
La Constitution ne reconnaît que les citoyens, qui, selon les sages, ne sauraient être divisés en catégories. Cette décision va freiner net les velléités de féminisation par la loi. Et c'est pour cette raison que le concept de parité semble si intéressant, justement. Car s'il permettait de relancer la bataille, en demandant cette fois non pas quelques miettes, mais bien 50% des places, le juste chiffre pour celles qui représentent la moitié de la population. Claude Servan-Schreiber est séduite par l'idée. Après son interview, elle en discute avec sa compagne, Françoise Gaspard, qui connaît bien les arcanes du pouvoir. Au cours des années 70 et 80, elle a été tour à tour maire de Dreux, députée d'Eure-et-Loire et députée européenne. La socialiste aime bien aussi l'idée. Mais un objectif de 50%, les partis n'accepteront jamais. Il faudrait leur forcer la main en interpellant l'opinion publique. En publiant une tribune, peut-être. Non. Un livre, ça c'est mieux. Alors c'est dit. Les deux femmes se mettent à l'écriture d'un essai qu'elles proposent à Anne Le Gall de co-signer. Après tout, c'est elle qui leur a fait découvrir cette nouvelle idée. Leur livre sort au printemps 92 avec ce titre combatif « Au pouvoir citoyenne ». Chiffres et exemples historiques à l'appui, ces autrices démontrent comment les femmes ont systématiquement été exclues du pouvoir en France, depuis la loi Salique qui leur interdisait d'accéder au trône. Et dès lors qu'il y a eu exclusion, il faut qu'il y ait réparation. Pour atteindre la parité, les autrices proposent que celle-ci soit imposée par la loi. Pour les scrutins de liste, par exemple, eh bien, il suffirait d'alterner un homme et une femme dans les candidatures. Bon, bien sûr, elles ont en tête les réserves du Conseil constitutionnel sur le fait de diviser les citoyens en sous-groupes. Et c'est là où leur argumentation se veut audacieuse. Elles développent en effet l'idée que les femmes ne sont pas une catégorie de la population, comme peuvent l'être les groupes basés sur la nationalité, la couleur de peau, sur l'orientation sexuelle, non. Selon elle, les femmes transcendent la notion de catégorie. D'ailleurs, on les retrouve dans toutes les strates socio-professionnelles et tant qu'elles ne seront pas représentées à leur juste place, eh bien la démocratie pourra être considérée comme imparfaite. Avec cet ouvrage, c'est la toute première fois que le grand public entend parler de parité. Comme elle l'avait espéré, les autrices sont invitées dans les médias, comme ici Françoise Gaspard sur France Inter, en juin 92.
Alors j'en reviens à votre exigence de parité, de représentation démocratique. Est-ce que ce n'est pas finalement de la ségrégation, une forme d'apartheid? Parce qu'on pourrait dire aussi, il faut 20% de noirs, 5% de ceci, 7% de cela.
Il y a autant d'hommes que de femmes, même vous l'avez remarqué tout à l'heure, un peu plus de femmes que d'hommes, pour que l'humanité perdure, se reproduise. Il faut une femme et un homme pour faire la loi. Je pense qu'il ne serait pas inutile qu'il y ait aussi autant d'hommes que de femmes.
Dans les mois suivants, un autre événement va venir enfoncer le clou. Cette fois à l'échelle de l'Europe. La Commission européenne organise à Athènes une conférence sur la place des femmes dans les sphères du pouvoir, avec en point d'orgue la signature d'une déclaration commune. Ce texte contribue à imposer la parité comme un objectif légitime. Le mot, d'ailleurs, figure dans l'introduction de la déclaration, notamment grâce à une certaine Françoise Gaspard. Bien, si le concept de parité est reçu avec une certaine indifférence par les partis, quand ce n'est pas une franche hilarité, il séduit en revanche un certain nombre de militantes pour la cause des femmes. Et en quelques semaines, plusieurs réseaux se créent pour tenter de donner plus d'écho à cette revendication. Et ce qui frappe dans cette mobilisation naissante, c'est la diversité de profils. Certaines sont des politiques, comme l'ancienne ministre des droits des femmes, Yvette Roudy. D'autres sont issues d'associations féminines et non pas féministes, car elles ne s'en revendiquent pas forcément. Comme par exemple les militantes de la mouvance du catholicisme social. Enfin, citons les féministes du réseau Femmes pour la parité, qui, elles, s'inscrivent dans un militantisme assez proche de ce qu'a été le MLF dans les années 70. Ce collectif a l'idée de faire publier dans le monde un manifeste des 577, comme le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Manifeste signé par des femmes et des hommes à part égale, bien sûr. Et à nouveau, c'est Françoise Gaspard et c'est Claude Servan-Schreiber qui s'attellent à l'écriture. Soutenu par quelques célébrités comme Sonia Riquel, Pierre Arditi, Colline Serrault ou Pierre Bourdieu, le texte permet une nouvelle fois de faire de la pédagogie. Comme ici, lors de l'émission France et si vous parliez sur France 3.
Il se passe qu'un certain nombre de citoyennes et de citoyens, donc dont Françoise Gaspard ici présente, ont lancé le manifeste des 577 pour une démocratie paritaire. Alors, nous demandons l'adoption d'une loi organique dont le texte est simple. Les assemblées élues au niveau territorial comme au niveau national seront composées d'autant de femmes que d'hommes. Alors Françoise Gaspard, autant de femmes que d'hommes, ça deviendrait donc une obligation. Mais alors dites-moi, et la compétence ?
Moi je me demande, si on faisait un test de compétence, s'il n'y aurait pas plus de femmes que d'hommes au Parlement aujourd'hui. Je n'ai pas pu constater, lorsque j'ai été parlementaire, j'étais parlementaire une dizaine d'années, que ceux qui étaient élus étaient là forcément grâce à leurs compétences. Ça se saurait.
L'année suivante, les élections européennes sont l'occasion d'une initiative de Michel Rocard. À la surprise générale, le premier secrétaire du PS annonce qu'il va mener une liste strictement paritaire, alternant donc un homme, une femme. Une liste aussitôt renommée un peu bêtement « Chabalabala », en référence à la musique du film « Un homme, une femme » de Claude Lelouch. Mais cette stratégie électorale fait un flop dans les urnes. Les militantes pour la parité ne se démontent pas pour autant et continuent leur lobbying, car elles comptent bien profiter de la présidentielle de 95 pour interpeller les trois principaux candidats, Lionel Jospin, Jacques Chirac et Édouard Balladur. Progrès notable, pendant la campagne, chacun d'eux apporte une certaine forme de soutien à la question de la féminisation du monde politique. On le sait, c'est Jacques Chirac qui l'emporte en 95. Et le gouvernement nommé par le nouveau Premier ministre, Alain Juppé, fait sensation. Sur les 42 ministres et secrétaires d'État, 12 sont des femmes, soit 28,5%, un chiffre jamais atteint jusqu'ici. Les médias les surnomment, de manière encore une fois méprisante, les Juppettes. Mais voilà que moins de 6 mois plus tard, 8 de ces 12 femmes sont débarquées lors d'un remaniement. Ce qui fait dégringoler évidemment le pourcentage des femmes dans le gouvernement à un peu glorieux 13%, comme l'annonce alors le JTTF1.
Les femmes ont donc été les principales victimes du remaniement ministériel, puisqu'elles sont 8 sur les 13 sortants. Et certains, aujourd'hui, d'ironiser, elles n'ont servi que de gadget l'espace de 6 mois. Ce sont tout naturellement deux femmes de la rédaction, Laure de Broye et Geneviève de Cazaux, qui sont allées recueillir le sentiment de quelques ministres remerciés.
Il faisait beau ce matin de mai sur le perron de l'Élysée. 12 femmes ministres ou secrétaires d'État prenaient leur service. Il faisait gris, voire froid ce matin, et on ne compte plus que 4 femmes rescapées. Les partantes ce matin avaient le cœur gros. Elles signaient leur dernier parapheur et s'attaquaient à faire leur carton avec quelques états d'âme.
C'est un coup dur porté à la politique. C'est vrai que 8 jupettes qui s'inventent en même temps, ça fait beaucoup.
En cas de crise, quand on recentre un petit peu les responsabilités, trop souvent, on les confie plutôt à un homme qu'à une femme.
Pour beaucoup de pro-parité, ce limogeage de la plupart des femmes du gouvernement est la goutte de trop. La socialiste Yvette Roudy est exaspérée. Mais enfin, quand les femmes vont-elles être prises au sérieux? Il va falloir hausser le ton. Alors elle en discute avec plusieurs femmes politiques, d'anciennes ministres comme elle. Le fruit de leur réflexion va prendre la forme d'un manifeste, publié 6 mois plus tard dans l'Express. Sur la couverture, un grand bandeau rouge annonce « 10 femmes politiques lancent le manifeste pour la parité ». Juste en dessous, le chiffre d'un sondage vient adouber leur démarche. 71% des Français les approuvent. Parmi ces femmes, on trouve 6 membres du PS, et notamment Edith Cresson, mais aussi 4 personnalités issues de la droite, dont Simone Veil et Michel Barzac. Ce caractère transpartisan de la démarche fait sensation. Ainsi, 10 femmes politiques de premier plan ont mis de côté leurs différends pour soutenir une cause pourtant largement rejetée au sein de leurs partis respectifs. Parmi leurs revendications, on trouve la limitation drastique du cumul des mandats, qui libérerait plusieurs milliers de sièges, un financement des partis en fonction du respect de la parité au sein de leurs instances dirigeantes et de leurs élus, mais aussi, pourquoi pas, des quotas. Pour les mettre en place, il faudra alors modifier la Constitution, puisque, on l'a vu, en l'état, le Conseil constitutionnel les estime non conformes. Là encore, les 10 femmes se disent favorables. Cette fois, la polémique est lancée et elle n'est pas prête de s'arrêter.
Spécialement dédicacée aux routières, aux câblières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, éthologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, infirmières. Continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacée aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices. Dessinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices, aux galériennes, magiciennes. Aux historiennes, bohémiennes, aux grammairiennes, aux physiciennes, aux techniciennes, aux gardiennes, aux électriciennes, aux mécaniciennes, aux comédiennes, aux pharmaciennes, aux musiciennes, aux pharmaciennes. À toutes celles saisonnières, aux céréalières, aux journalières, qui pour un travail égal, à celui qui a fait le mal, la qualification égale, touche-moi, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la loi sur la parité en politique.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler, nous dit la chanson. Effectivement. Après la publication du manifeste dans l'Express, Elisabeth Badinter est l'une des premières à monter au créneau. Elle publie dans Le Monde une tribune au lance-flammes. Selon la philosophe, une modification de la Constitution pour y inscrire le principe de parité femmes-hommes irait à l'encontre même de notre principe d'universalisme républicain. Elle serait donc porteuse, je cite, de dérives mortelles pour notre République. Les mots sont forts. L'essayiste craint également que, après les femmes, d'autres groupes s'engouffrent dans des demandes similaires et que l'on glisse ainsi vers ce qu'elle estime être une forme de communautarisme. Comme elle s'en explique au micro de France Inter.
Il faut bien comprendre que si on introduit la différence sexuelle directement ou indirectement dans la Constitution, on a ouvert la porte à d'autres revendications, d'autres communautés qui se trouvent différentes par rapport à la majorité qui voudront eux aussi en bénéficier. Et j'ajoute que c'est une révolution politique et philosophique, comme on n'en aura pas eu depuis 2 siècles. Ce que je voudrais bien faire comprendre, c'est que la République française, elle est fondée sur des principes qui ont été élaborés en 89, l'universalisme, sur la philosophie des Lumières. Si on introduit la différence des sexes maintenant, c'est cette République-là qui est finie, terminée, et c'est la naissance d'un autre système, parce que ça ne sera plus la République française universelle.
Dans les semaines et les mois qui suivent, des experts et expertes croisent le fer sur les plateaux télé comme dans les pages débat des quotidiens. Du côté des Antilles, on trouve Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, la politologue Evelyne Pizier, le constitutionnaliste Olivier Duhamel, entre autres. Outre l'argument de l'entorse à l'universalisme républicain, on avance que de telles dispositions seraient humiliantes pour les femmes, dont on pourrait alors douter qu'elles ont été vraiment choisies pour leur capacité. Certaines politiques prétendent même qu'il n'y aurait tout simplement pas assez de femmes crédibles à investir pour atteindre les 50%. Du côté des paritaires, on s'impatiente et on s'insurge. Bien sûr que les femmes compétentes existent. Des figures comme l'historienne Michel Perrault font remarquer que cet universalisme, dont se revendiquent leurs opposants, n'est en réalité pas tout à fait neutre. La République, instaurée par la Révolution française, n'a-t-elle pas exclu les femmes du suffrage soi-disant universel pendant plus d'un siècle et demi? Comment peut-on croire qu'une telle loi pourrait discriminer les hommes alors que ce sont eux qui ont capté le pouvoir au détriment de l'autre moitié de l'humanité? À l'époque, on parle aussi beaucoup d'une crise de la représentation en politique. Les Français seront de plus en plus défiants envers les élites. Alors, la féminisation des sphères du pouvoir est bientôt présentée comme un moyen d'y remédier, en renouvelant les pratiques, justement. Certains défenseurs du 50-50 en viennent même à vanter ce qui serait les compétences spécifiques des femmes. C'est le cas de la philosophe Sylvia Lagazinski, qui se lance dans la polémique de manière très remarquée, puisqu'elle n'est autre que la compagne de Lionel Jospin, alors premier secrétaire du PS, ce qui est loin d'être un détail. Celle-ci prend position pour une loi au nom de la différence des sexes, aux grandes dames de nombreuses féministes qui lui reprochent un discours essentialiste. Écoutez son raisonnement ici sur le plateau de Bouillon de Culture.
On a cru qu'il suffirait de dire les femmes aussi vont accéder aux mêmes droits. Et on n'a pas repensé l'égalité des sexes dans leurs différences, parce que les sexes sont différents, et ça il faut le maintenir. Je veux dire, la déclaration de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, était d'un côté très juste pour la part culturelle acquise de notre féminité. Quand on met des hauts talons, du rouge à lèvres, on s'habille en femme, si vous voulez. Mais il y a une féminité.
Régine de Fox, vous avez remarqué, vous avez toutes
des bas noirs. Oui, on est toutes en bas noir. Et il y a une différence masculin-féminin, une différence. Une différence sexuelle qui est naturelle. Et alors, on a cru qu'on pourrait rectifier les inégalités et l'ancienne structure de la société en donnant certains droits aux femmes, alors qu'il aurait fallu repenser la différence sexuelle dans l'égalité.
Peu à peu, les arguments des pro-parités gagnent du terrain dans l'opinion publique, au point que les politiques se sentent un peu contraints de montrer patte blanche. Ainsi, le président Chirac crée un observatoire de la parité, une promesse de campagne, avec à sa tête la députée Roselyne Bachelot. Celle-ci a obtenu la participation de Gisèle Halimi, pourtant étiquetée à gauche, et qui est chargée d'écrire le premier rapport. Le 15 janvier 1997, les deux femmes sont reçues par Alain Juppé pour lui remettre ses recommandations qui plaident énergiquement pour des quotas. Roselyne Bachelot se rappelle ce moment dans l'émission « Il était une loi » sur Public Sénat.
Et je me souviens toujours de mon argumentation. Je lui dis « Tu vois Alain, moi je t'amène une réforme qui ne coûte rien et qui ne mettra personne dans la rue, bien au contraire. »
Et lui, qu'en pensait-il ?
Il me dit « Jamais ma majorité n'acceptera une loi contraignante. Moi je voudrais bien, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. » Donc, il va proposer, à l'occasion du 8 mars, un débat à l'Assemblée nationale, un débat sans vote.
Le débat a lieu dans un hémicycle particulièrement clairsemé. Quelques discours, et puis c'est tout. On passe à autre chose. Mais au printemps 97, une décision surprise va rebattre les cartes. Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale, sciant ainsi la branche sur laquelle il était assis. Et c'est la coalition de la gauche plurielle qui remporte les législatives. Lionel Jospin est nommé Premier ministre. Longtemps réticent aux mesures contraignantes sur la parité, le socialiste s'est rallié à l'idée d'une loi un an plus tôt. Alors, dès sa déclaration de politique générale, il annonce son intention d'inscrire le principe de la parité dans la Constitution.
Il faut d'abord permettre aux Françaises de s'engager sans entrave dans la vie publique. Dans ce domaine, le progrès passe d'abord par l'évolution des mentalités et le changement des comportements. Les socialistes et la majorité ont montré l'exemple et tracé le chemin, notamment lors des dernières élections législatives. Il faut aller plus loin, une révision de la Constitution afin d'y inscrire l'objectif de la parité entre les femmes et les hommes sera proposé.
Seulement voilà, pour parvenir à modifier la Constitution, le gouvernement de gauche va devoir faire face à deux obstacles. Et ils sont de taille. Tout d'abord, la procédure prévoit que toute modification doit être à l'initiative conjointe du Premier ministre et du Président de la République. Or, jusqu'ici, Jacques Chirac s'y est toujours opposé. Il faut ensuite que le texte soit voté par l'Assemblée nationale et le Sénat dans des termes identiques. Si la gauche possède la majorité des sièges à l'Assemblée, ce n'est pas le cas au Sénat. Et le bras de fer politique s'annonce tendu. Le gouvernement ne présente son avant-projet que 10 mois plus tard, en avril 1998. Un délai qui a laissé le temps au président de la République d'évoluer. Car fin mai, c'est le revirement. Jacques Chirac annonce qu'il soutient la démarche, avec quelques réserves tout de même. Il obtient notamment que le mot parité ne figure pas dans le projet de loi adopté, d'ailleurs, sans encombre à l'Assemblée nationale, en décembre 1998 donc. Mais comme prévu, les choses se corsent avec l'épreuve du Sénat. En janvier 1999, la commission des lois de la Chambre haute modifie le texte de manière conséquente. Or, on l'a vu, pour qu'il y ait modification de la Constitution, les sénateurs doivent voter un texte identique à ceux des députés. Dans le camp des pro-parités, c'est la consternation. Alors, pour le débat en séance publique, des féministes organisent une manifestation devant le palais du Luxembourg, où se rendent aussi les journalistes de France 2.
Sénateurs, n'ayez pas peur, vous survivrez à la parité.
Deux ministres sous les banderoles. En plein débat sur la parité au Sénat, Elisabeth Guigou et Nicole Perry ont voulu elles aussi dénoncer à leur manière le blocage du texte par les élus du Palais du Luxembourg. Elles ont donc rejoint un moment la manifestation d'une centaine de militantes féministes. Mais aujourd'hui au Sénat, les femmes étaient plutôt dans le public pour entendre des hommes à la tribune parler de la parité. Le Sénat fait de la résistance, il remet en cause le texte de l'Assemblée nationale, il veut laisser l'initiative de cette parité aux partis politiques.
Vous verrez, dans 20 ans, il y aura, cette fois-ci, peut-être des hommes qui demanderont et manifesteront dans la rue pour exiger des quotas en faveur des hommes. Ne faisons pas cela par pitié.
Le doute a même gagné les rangs de la gauche, où la thèse d'Elisabeth Badinter, relayée dans l'hémicycle par son mari, sénateur des Hauts-de-Seine, donne également la préférence à une démarche volontariste. Pas de dissension, dit-on au PS, mais plutôt un débat philosophique.
Désormais, le débat est le suivant. faut-il modifier l'article 3 de la Constitution pour indiquer que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et aux fonctions, comme le veut le gouvernement, ou plutôt modifier l'article 4, comme le propose le Sénat, pour indiquer seulement que les partis contribuent à la mise en œuvre de la parité, autrement dit, à sabordage. Inquiets, les réseaux féministes se mobilisent, tandis que Jacques Chirac s'engage dans des manœuvres en coulisses pour peser sur la majorité sénatoriale de droite. Après plusieurs semaines de tractations, un compromis est finalement trouvé, intégrant les deux propositions. Le projet de loi est voté en troisième lecture à l'Assemblée en mars 1999, puis adopté par le Parlement réuni en congrès à Versailles trois mois plus tard. Voilà qui est fait. La Constitution ainsi modifiée, le gouvernement a désormais le champ libre pour faire passer sa loi sur la parité sans risquer d'être censuré par le Conseil constitutionnel. Et c'est ainsi que la loi, je cite, « tendant à favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux » est adoptée 10 mois plus tard, le 3 mai 2000, comme l'annonce France Inter.
Une petite révolution pour les prochaines élections municipales. Il y aura autant de femmes que d'hommes sur les listes des candidats. Première conséquence de la loi sur la parité, définitivement adoptée à la quasi-unanimité des députés. Tous les groupes politiques avaient appelé à voter pour, ce que n'ont pas fait trois irréductibles gaulois, Christine Boutin, Laurent Dominati et Philippe de Villiers. D'autres qui n'étaient pas pour à titre personnel ont préféré ne pas prendre part au vote.
Alors finalement, que met-elle en place cette législation qui a tant fait couler d'encre? Pour les scrutins de liste, elle contraint les partis à présenter des listes paritaires, non pas strictement alternées à un homme, une femme, mais par tranche de 6. Cela vaut pour les européennes, les régionales, les sénatoriales, à la proportionnelle, ainsi que pour les municipales, mais uniquement pour les communes de plus de 3500 habitants. Pour les législatives, le texte incite les formations politiques à présenter le même nombre de candidates que de candidats, sous peine de sanctions financières. Mais il n'est pas contraignant, les partis étant libres d'opter pour cette option coûteuse. Rien ne les empêche non plus de présenter leurs candidates dans des circonscriptions où elles n'ont aucune chance de l'emporter. Pour toutes ces raisons, certaines militantes de la parité estiment que les mesures ne vont pas assez loin. C'est le cas notamment de Claude Servan-Schreiber et de Françoise Gaspard. Elles se sont tellement battues. Comment? Tout ça pour ça? Reste que le message est passé avec force. Car dans les deux décennies qui ont suivi, plusieurs lois ont été votées pour parfaire le dispositif, imposant par exemple une stricte alternance femmes-hommes sur les listes ou généralisant le système à toutes les communes pour les municipales. La parité s'est également invitée dans le domaine économique, avec la loi Copé-Zimmermann de 2011, qui impose un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Aussitôt adopté, le principe de la parité n'a plus été remis en cause. Et un peu partout, on a pris l'habitude de compter les femmes. Une bonne partie de celles et ceux qui n'avaient pas de mots assez durs contre la loi ont été forcés de reconnaître que finalement, elle a constitué un vrai progrès. C'est le cas d'Elisabeth Badinter, comme elle l'expliquait en 2019 sur France Inter.
Je l'ai déjà dit publiquement. Je suis toujours opposée philosophiquement à ça. Il faut que vous vous souveniez, peut-être personne s'en souvient, qu'il s'agissait d'introduire la différence biologique dans la Constitution, qui me semblait extrêmement dangereuse. Moi, je ne voulais pas de ça. Je croyais beaucoup à la compétence. Mais j'ai aussi dit, 20 ans plus tard, que ça a sûrement accéléré les choses. Et qu'en ce sens, je trouve que ça a été bénéfique. Voilà.
Eh oui, voilà. Mais si tout le monde semble aujourd'hui d'accord pour louer la parité, ce n'est pas pour autant qu'on l'applique avec gaieté de cœur. Lors des législatives de 2024, pas moins de 11 formations sur 15 ont écopé d'une pénalité financière après avoir présenté plus de candidats que de candidates. Avec, sur le podium des cancres de la parité, l'Union des droites d'Éric Ciotti, suivie des Républicains et du Rassemblement national. Début 2026, les femmes ne constituent encore que 36% des élus de l'Assemblée nationale et du Sénat et seulement 20% des maires. Moralité, en politique, contrairement à ce que voudrait le poète, la femme n'est pas toujours l'avenir de l'homme.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
aujourd'hui la parité homme-femme en politique, dont nous parlons avec notre invitée Laure Bérény. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice, vous êtes sociologue, hein, directrice de recherche au CNRS. Vous avez consacré une thèse à la loi sur la parité, ainsi qu'un livre intitulé « La bataille de la parité », paru en 2015 chez Economica. Alors, dans les années 70, le MLF, c'est-à-dire le mouvement de libération des femmes, a beaucoup milité pour le droit des femmes, notamment avec la question de l'avortement. Mais finalement, ce mouvement s'est assez peu intéressé à la place des femmes dans le monde politique. C'est étonnant, non ?
Alors effectivement c'est étonnant si on regarde effectivement la faible proportion des femmes dans les assemblées élues à ce moment-là, mais quand on connaît un peu l'histoire du mouvement féministe des années 70, on sait que c'est un mouvement qui voulait renverser le patriarcat, qui avait des ambitions politiques très fortes, et qui voulait plutôt donc renverser ce patriarcat en travaillant par exemple dans la sphère intime, dans la sphère des relations personnelles, en dénonçant des rapports de pouvoir qui peuvent avoir lieu dans la sexualité, dans les relations domestiques, ou encore au travail. Et finalement, pour ces militantes féministes qui étaient très inspirées des idées de mai 68, réformer les institutions politiques ou faire rentrer plus de femmes dans ces institutions politiques, ça n'était pas la solution, ça n'allait pas changer le monde, et ça n'était en tout cas pas du tout la priorité.
D'ailleurs, on l'a vu, hein, les associations de femmes, plus tard, hein, qui se mobilisent pour la parité, ne sont pas toutes féministes. Certaines d'ailleurs trouvent initialement que l'option d'une loi est excessive. Comment expliquez-vous que des personnes avec des profils si différents se soient investies sur cette question ? Finalement, il y a eu de vrais regroupements.
Oui, tout à fait. Et c'est la magie de ce terme, de ce slogan de parité, que d'avoir réussi à agglomérer finalement des militantes d'horizons très très divers. Donc certaines qui étaient tout à fait héritières du féminisme MLF des années 70, et comme vous l'avez dit, d'autres qui héritaient plutôt d'une tradition, par exemple, d'engagement féminin catholique, qui était beaucoup plus modérée dans leurs revendications. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette revendication de parité, elle était suffisamment floue pour pouvoir faire tenir ensemble toutes ces visions, puisque pour certaines il s'agissait, donc notamment pour Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreiber et Anne Le Gall et d'autres, d'imposer par la loi la représentation égale des femmes et des hommes dans toutes les assemblées de la nation, ce qui était une revendication assez forte. Mais pour d'autres qui se ralliaient à ce slogan, il s'agissait tout simplement d'inciter les femmes à entrer en politique. C'était un horizon qu'il fallait atteindre, mais pas forcément par des moyens contraignants. Et en fait, tout ça, ça s'est construit un peu sur un malentendu. Toutes ces militantes ont travaillé ensemble sans être tout à fait d'accord sur l'enjeu de la lutte.
Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Elisabeth Badinter, qui a changé son fusil d'épaule avec le temps. Ça, c'est intéressant, finalement, parce qu'on voit que les grands mouvements de société font reculer certaines pensées, y compris les plus brillantes, hein, comme celle d'Elisabeth Badinter. Que pensez-vous de son argument qui disait vous allez mettre les femmes dans une communauté? Alors, on sait qu'Elisabeth Badinter est une combattante de la laïcité, donc contre les communautés.
Oui.
C'était bizarre, parce que les femmes, c'est pas une communauté, c'est la moitié de l'humanité.
Alors, effectivement, c'était déjà l'argument donc du Conseil constitutionnel, oui, en 1982, qui avait donc censuré cette loi qui introduisait des quotas dans la représentation politique. L'argument, c'était de dire on ne va pas diviser la souveraineté du peuple en catégories. On ne va surtout pas, effectivement, faire une entorse à ce dogme de l'universalisme républicain qui est au cœur de notre identité politique. Donc, Elisabeth Badinter, elle se fait l'écho, comme la plupart en fait des intellectuels de l'époque, de droite et beaucoup d'intellectuels de gauche, elle se fait l'écho de cette position qui est de garder, d'être gardien, gardienne de cet héritage républicain et de considérer que reconnaître la différence des sexes, c'est, comme elle le dit, mettre en péril, tout simplement, signer l'arrêt de mort de la République. Et c'est vrai que voilà, ça a été une des rhétoriques qui a aussi beaucoup, qui s'est appuyée sur le contre-modèle américain. C'est-à-dire l'idée, c'était, oui, si vous introduisez la parité en France, nous allons basculer dans un système communautariste, multiculturaliste à l'américaine, avec cet argument qu'on a également entendu tout à l'heure, selon lequel, si vous donnez des droits d'inclusion aux femmes, d'autres groupes minorisés le réclameront aussi.
Alors là, on est dans la théorie, le concept, la réflexion, c'est très bien. Mais il y a un cas concret, c'est Edith Cresson, qui arrive en 91, donc au début de ce grand débat. Et la réalité prouve que jamais on ne l'a jugée sur ses compétences, hein, mais sur le fait qu'elle était une femme. Et tout autour d'elle, tous les ministres ont été terribles, lui ont savonné la planche. Ils étaient verts de rage, hein, ces mecs, hein, qu'une femme soit à Matignon. C'est le Moyen-Âge, hein.
Tout à fait, et c'était donc un épisode de sexisme extrêmement difficile pour Edith Cresson, qui ne s'attendait pas à ça, en fait, je pense, vu précisément toutes les compétences qu'elle avait pu accumuler, et voilà, donc qui faisait qu'elle était tout à fait légitime à ses yeux et aux yeux d'un certain nombre de personnes à son poste. Je pense que cet épisode de sexisme a eu un rôle justement de catalyseur du mouvement pour la parité, hein, paradoxalement, puisque il a conduit un certain nombre de femmes politiques d'envergure à se rassembler et apporter d'une seule voix cette revendication-là, faisant le constat que dans tous leurs partis et dans toutes leurs responsabilités politiques, elles faisaient face à ce même climat de sexisme violent.
Alors, elle s'y attendait pas. Certes, elle a dit à François Mitterrand, mais ils vont me tomber dessus. Et François Mitterrand lui a répondu, je ne quitterai pas l'Élysée sans avoir nommé une femme au poste de première ministre. Alors, il a dit premier ministre, maintenant on dit première ministre. Il y a aussi un autre épisode de notre vie politique intéressant, c'est l'accession de Ségolène Royal au second tour. Est-ce que ça a boosté les choses ou est-ce qu'on était déjà bien avancé dans le combat ?
Ce qui est sûr, c'est que sans ces luttes pour la parité et sans la loi sur la parité, il est peu probable que Ségolène Royal ait été désignée, investie par son parti pour se présenter à l'élection présidentielle. Donc c'est vrai que cette possibilité de candidature était quand même un effet dérivé de cette réforme. Mais souvenez-vous qu'au moment de la primaire, d'aucuns se sont demandé qui allait garder les enfants entre François Hollande et Ségolène Royal. Elle aussi, elle a fait face à de nombreux épisodes sexistes et plus on s'approchait en fait de la fin et de l'épisode finalement décisif du jour de l'élection et plus les attaques sexistes ont été fortes à son encontre. On lui a reproché de ne pas maîtriser ses dossiers et on n'a pas eu des reproches symétriques à l'égard de son principal concurrent. Donc il y a une sorte de normalisation avec Ségolène Royal de la présence des femmes en politique qui candidatent à cette fonction suprême, mais en même temps c'est aussi le plafond de verre qui se donne à voir. Ouais. Peut-on incarner cette fonction présidentielle sous la Ve République, extrêmement personnalisée, en étant une femme? On le verra peut-être dans les années qui viennent, mais en tout cas, l'échec de Ségolène Royal montrait que ça n'allait pas du tout de soi, malgré la parité.
France Inter. Affaires sensibles.
Laure Bérigny, dans votre ouvrage, vous parlez d'espace de la cause des femmes, pour évoquer toutes les mobilisations. Quel est ce concept, même si on le comprend à travers son intitulé, mais plus précisément?
Oui, c'est l'idée que des mobilisations de femmes, pour la cause des femmes, elles émergent dans une variété de sphères sociales, pas simplement dans la sphère associative, pas simplement dans la rue, pas simplement par des pétitions, etc. C'est aussi dans les institutions, à l'Assemblée nationale, dans les partis politiques, même dans les entreprises. Et donc voilà, c'est aussi parce que j'ai donc forgé ce concept pour comprendre un peu comment on en était arrivé au succès de la loi sur la parité, puisque cette campagne, elle s'est vraiment caractérisée par une prolifération de petites mobilisations dans une très grande diversité d'univers sociaux. Il n'y avait pas beaucoup de militantes de la parité, mais elles étaient presque partout, et elles étaient proches du pouvoir. Donc,
Alors, il faut aussi peut-être pour certaines causes une gouvernance mondiale ou internationale. Quel rôle ont joué l'ONU et les institutions européennes dans le débat sur la parité ?
Oui, l'ONU et les institutions européennes ont joué, comme vous l'avez dit dans le récit documentaire, un rôle effectivement d'incitation. Elles ont porté cette cause à l'agenda et donc ça a été une ressource pour les militantes françaises de la parité. Mais il ne faut pas oublier que ces institutions internationales, elles n'ont jamais imposé à la France de mettre en œuvre une loi sur la parité. C'était simplement des préconisations, des bonnes pratiques. Et contrairement par exemple à une directive européenne, par exemple, qui va imposer la non-discrimination. Donc, il ne faut pas non plus donner trop de poids à ce que ces institutions internationales ont fait, dans le sens où ce sont surtout des mobilisations qui, en France en particulier, ont réussi à se saisir de ces ressources pour dénoncer ce qu'elles appelaient le scandale de la sous-représentation politique des femmes. C'est-à-dire, on se sert de l'Union européenne et de l'ONU pour crier au scandale et pour faire passer la classe politique française pour une classe politique archaïque si elle ne fait pas plus de place aux femmes.
Alors, nous évoquions dans le récit le fait que, lors des dernières législatives, un certain nombre de partis ont dû payer des amendes, pénalités financières, car ils ont encore aujourd'hui présenté plus de candidats que de candidates. Mais alors, de manière plus étonnante, il y a aussi un parti qui a été pénalisé car il a présenté plus de femmes que d'hommes. C'est plus original, hein. Il s'agit du Parti communiste, qui a tout de même perdu 68 000 euros pour avoir présenté 35 femmes et seulement 2 hommes. Quel est votre regard sur ce petit événement qui nous fait un peu sourire?
Oui, ça fait sourire. Et puis d'ailleurs, ça me rappelle que c'était un des arguments qui était mobilisé notamment par Françoise Gaspard et d'autres militantes à l'époque de la campagne pour la parité, de dire mais ne vous inquiétez pas, cette loi va vous protéger, vous les hommes, puisque c'est un, voilà, ça va fixer un quota maximum de 50% de femmes dans les assemblées élues. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, dans les années 90, un des répertoires d'action de c'était féministe, c'était de présenter des listes de femmes où il n'y avait que des femmes. Ouais. Et donc, c'était aussi la parité, une loi qui était d'une certaine manière plus respectable puisque elle permettait d'inscrire la mixité sur les listes électorales.
Bien sûr. Alors, l'un des arguments de certaines partisanes de la parité, était que les femmes allaient changer la manière de faire de la politique. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas ?
Alors, les femmes ne changent pas naturellement ou en soi la politique, puisqu'il n'y a pas d'essence féminine ou il n'y a pas de caractéristiques qui seraient intrinsèquement féminines ou masculines. Il y a bien sûr des socialisations différentes, des manières différentes de se construire dans la société actuelle, mais qui perdure, hein, donc une sorte de reproduction des inégalités et des différences sociales entre les femmes et les hommes. Mais finalement, peut-être que ce que ça a changé de plus, ce qui a été le plus marquant comme changement, c'est peut-être que cette masse critique de femmes qui rentrent dans les assemblées élues, ça crée quand même un certain changement. Toutes les femmes qui sont élues dans ces assemblées vous le disent, parce que les épisodes de sexisme, ils existent, mais ils sont davantage dénoncés. Ils sont moins tolérés, donc ils vont peut-être moins se donner à voir sur les scènes. Et puis, il y a autre chose, c'est que dans ces assemblées où les femmes sont plus nombreuses, parfois, il peut y avoir des coalitions entre femmes, avec des alliés hommes, bien sûr, mais souvent des coalitions qui sont menées par des femmes, pour défendre certains droits des femmes. Donc, par exemple, on peut se demander si la révision constitutionnelle qui inscrit le droit à l'avortement en France, donc dans la Constitution française, aurait été adoptée avec une Assemblée nationale et un Sénat moins féminisés. Oui.
Est-ce que, alors, on pointait le retard de la France tout à l'heure dans le récit, est-ce qu'aujourd'hui elle a rattrapé les pays les plus en pointe de l'Europe ?
Oui, enfin, elle a rattrapé, elle se situe dans une bonne moyenne, avec à peu près un tiers de femmes dans les assemblées parlementaires. Néanmoins, en 2022 et en 2024, on assiste à un petit repli. Donc, en fait, rien n'est gagné, c'est pas une progression linéaire. Oui. C'est-à-dire que cette cause, elle est un petit peu retombée, les mobilisations autour de cette cause sont un petit peu retombées dans les dernières années, et ça se voit dans ce petit décrochage en termes de féminisation des assemblées.
Merci infiniment.
Merci.
Laure Bérény, au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la loi sur la parité en politique, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.